Bonjour, c'est l'heure du grand retour des apatrides anonymes. C'est la rentrée pour tout le monde, mais pour nous aussi, puisque notre dernier épisode date du 24 juillet. On espère que vous avez passé un bel été et on vous présente maintenant cette toute nouvelle édition du 4 septembre 2025. Très content d'être de retour parmi vous en direct des studios de Choc à l'UQAM tous les deux jeudis, 18h30.
Simon avec vous à l'animation aujourd'hui en compagnie de Marie-Ève. Salut Marie-Ève.
Salut Simon.
J'espère que tu as passé un bel été toi aussi. Tu nous as préparé deux chroniques, une plutôt locale sur le racisme
systémique et ordinaire.
Et une chronique internationale des chiffres blancs dans le monde. On est en septembre, donc les chiffres de mi-année ont déjà été sortis. Mathieu qui est en ce moment à la console, salut Mathieu.
Bonsoir Simon.
Tu vas venir me rejoindre toi aussi pour deux chroniques, une locale, actualité autochtone.
Nationale, et puis des enjeux du génocide en cours en Israël et en Palestine, autant locale qu'internationale.
Oui, parce que les implications sont internationales.
Exactement.
Donc comme toujours, pour la prochaine heure et dix, des nouveautés musicales, un agenda culturel et militant, et je vais saupoudrer le tout de quelques brèves d'actualités, surtout internationales, sur nos thématiques habituelles, les enjeux migratoires, leurs causes et leurs conséquences, comme le populisme de droite en pleine puissance, ici comme ailleurs actuellement, les contextes critiques particuliers, qu'ils soient politiques, économiques ou environnementaux, qui poussent les populations civiles à fuir leur territoire. Donc, on va commencer cet épisode des Apatrides anonymes dans quelques secondes avec Marie-Ève. Quel début, quelle rentrée quand même!
Tu es l'animateur!
Oui, et là j'ai préparé une capsule pour vous avant de passer le micro à Marie-Ève, dont je disais qu'elle était dans quelques secondes, mais elle sera dans 4 minutes à peu près. On va aller en Europe, je vais commencer avec une nouvelle qui nous vient du Royaume de Belgique, où les associations locales nous alertent sur un nombre record de familles de migrants qui se trouvent actuellement à la rue, souvent dans des campements informels de tentes dans les grandes villes belges. Le nombre de migrants qui cognent aux portes des refuges compte pour parfois le double et même jusqu'au triple des capacités d'accueil réelles. La situation s'est graduellement aggravée depuis début août, alors qu'une nouvelle loi fédérale entrait en vigueur, une loi qui contient deux mesures principales. Difficile de distinguer les deux, je vais essayer de les lire lentement. La première, les personnes ayant reçu une réponse positive à une demande de protection antérieure dans un autre pays de l'Union européenne n'ont plus droit à l'hébergement à leur arrivée en Belgique où elles seront visées par des obligations de quitter le territoire. L'autre mesure, on peut la résumer comme ça, toute personne qui aura reçu une décision définitive dans un autre État membre de l'Union européenne, qu'elle soit positive ou négative cette fois, verra sa demande considérée comme non recevable. Donc là, je ne parle pas juste de l'hébergement, mais de demande d'asile. Donc deux mesures semblables en tout point dans l'esprit et dans la lettre et complémentaires dans l'application. Il s'agit d'un important durcissement des politiques d'asile en Belgique et, comme je disais, l'entrée en vigueur de ces mesures date d'il y a à peine un mois et les effets sont déjà très visibles et palpables dans la rue en Belgique. Je vais citer Thomas Wilkens du Refugee Council des Flandres qui nous donne un exemple d'à quel point ce genre de mesures simplistes ne tient pas compte des parcours et des réalités des personnes migrantes. Citation, « Même après avoir reçu une réponse positive dans un autre pays, il arrive souvent que les gens partent parce qu'on leur refuse un abri, parce qu'ils sont victimes de maltraitance ou parce qu'ils restent prisonniers de la pauvreté. » Comme quoi, une demande d'asile acceptée, ça ne veut pas dire que c'est favorable pour toi de rester dans un pays.
Non, pas nécessairement.
Donc, demander l'asile dans un pays tiers, soit dans un pays voisin ou sur l'Union européenne, devient nécessaire pour survivre, ce qui n'empêche pas la ministre belge de l'asile et de la migration de parler entre deux petits fours de shopping de l'asile, alors que la Belgique se fait régulièrement taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses capacités d'accueil insuffisantes. Et entre-temps, l'itinérance augmente à une vitesse fulgurante chez les personnes migrantes en Belgique. Petite brève maintenant en provenance de l'Italie, dont le gouvernement, comme bien souvent, joue les gros bras avec les ONG qui cherchent à venir en aide aux personnes migrantes. On l'a souvent vu avec des interdictions d'accoster pour les bateaux de sauvetage d'ONG en Méditerranée. Là, on a décidé de s'en prendre à l'un des avions de repérage de Sea-Watch, qui en possède trois. Donc, c'est le Seabird 1 qui a été paralysé, Interdiction de vol pour 20 jours, une première, semblait-il, de s'en prendre comme ça un avion d'une organisation qui vient en aide aux migrants. C'est une nouvelle publiée par Infomigrant il y a 2 semaines et j'ai pas réussi à obtenir d'informations plus fraîches. Donc, je crois pas que le Seabird 1 ait été libéré ou si cette interdiction a été prolongée, mais le 20 jours n'est pas terminé. Faut dire que, bon, si je remets pas en contexte, ces ONG comme Sea-Watch gênent beaucoup le travail des gardes-côtes dont l'objectif principal est de faire en sorte que les embarcations de migrants n'atteignent jamais les côtes italiennes ou européennes. Les bateaux de sauvetage, ça le dit, ça va littéralement sauver des personnes en situation de détresse, des embarcations chavirées ou coincées dans des tempêtes, des personnes jetées à la mer. Les avions, de leur côté, font principalement du repérage et de la collecte et du partage d'informations, ce qui permet non seulement de coordonner le travail des bateaux de sauvetage, mais aussi, et c'est ça qui met parfois les gouvernements dans l'eau chaude, ça permet de documenter les activités illégales de Frontex, comme les pushbacks ou les appels de détresse qui sont ignorés, ou encore les actions violentes des gardes-côtes européens ou libyens, ces derniers étant les sous-traitants en mer de plusieurs États européens. Et tout ça, ce qui est filmé, documenté par avion, ce sont des informations très précieuses, surtout quand il faut aller devant les tribunaux des droits de la personne. Petite parenthèse que j'ai rajoutée à la dernière minute, Ocean Viking, qui est le bateau de SOS Méditerranée, a été attaqué il y a à peu près 1 semaine par des gardes-côtes libyens. Selon les témoignages des, à la fois les travailleurs bénévoles et les personnes, il y avait des personnes secourues à bord, à une cinquantaine. Il y aurait eu à peu près 20 minutes de tir de mitraillette. Aucun blessé, bateau fortement endommagé qui est taqué puis qui est non fonctionnel actuellement. On réclame une enquête, on réclame l'arrêt de la collaboration des Européens avec les Libyens. Évidemment, ce sera une histoire à suivre.
Il est taqué où actuellement, sais-tu?
Augusta, c'est où ça? C'est-tu en Sicile? Peut-être
en Sicile.
Je pense que c'est en Sicile, oui. Donc voilà, si je reviens, je finis avec l'avion. On avait prétexté un vague accro à la réglementation sur les communications aériennes pour justifier cette interdiction de vol, alors qu'on sait très bien que le gouvernement de Giorgia Meloni est en croisade contre les ONG qui viennent en aide aux migrants et plus particulièrement contre Sea-Watch. Alors pour l'instant, on va espérer que ce soit un cas isolé, que l'Italie et ses alliés ne se mettent pas à multiplier ces mesures arbitraires de clouage au sol d'avions de repérage qui sont vraiment essentiels dans tout l'écosystème assez fragile de l'aide aux migrants en mer. Donc Marie-Ève, finalement c'est à ton tour.
Ben oui, c'est effectivement mon tour. Vous savez, le temps passe vite, on est déjà rendu à plus de la moitié de l'année qui s'est écoulée, la moitié de l'année 2025, on s'entend. Alors je propose une sorte de bilan international, mais très axé Europe, de mi-année, plus 2 mois, en chiffres, ma spécialité. Je commence avec les franchissements irréguliers de frontières extérieures de l'Union européenne, qui, selon Frontex, ont baissé de 18% au cours des 7 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une baisse dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour ce qui est des routes terrestres, c'est celle des Balkans occidentaux qui ont connu la plus forte chute, avec 47%. Balkans occidentaux, là, on parle principalement de la Croatie, Bosnie, Kosovo, Serbie et Albanie. Viennent ensuite les franchissements irréguliers aux frontières terrestres orientales, avec là une baisse de 45%. Fait que c'est quand même des baisses assez hautes, assez importantes. Concernant les routes maritimes, c'est celle vers les Canaries au départ des côtes de l'Afrique de l'Ouest qui arrive en tête, avec une diminution de 46%. Depuis janvier 2025, il y a près de 12 000 personnes migrantes qui sont arrivées sur les îles espagnoles contre un peu plus de 22 000 sur la même période l'année passée. Selon Frontex, cette baisse-là est liée principalement au renforcement des mesures préventives prises par les pays de départ. On sait que l'Europe fait beaucoup de pression, donc en coopération avec, évidemment, l'Union européenne. Par exemple, il y a la Mauritanie qui a renforcé les contrôles aux frontières, la surveillance et plus globalement ses politiques migratoires. Donc, ce sont ainsi plus de 30 000 personnes migrantes qui ont été interceptées sur le sol mauritanien seulement entre janvier et avril 2025. Mais même si la route des Canaries est moins fréquentée, elle reste quand même une des plus meurtrières. C'est près de 1 500 personnes y sont mortes depuis le début de l'année. L'année passée, les décès se sont élevés à 10 000 selon l'ONG Caminando Fronteras.
Parfois même plus meurtrière que la Méditerranée, étant donné le contexte hydrographique, océanique, là, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement, parce que ça passe par l'Atlantique. Donc, ensuite, une autre diminution, c'est la Méditerranée orientale, avec 16 % de moins cette année. En revanche, Frontex a constaté qu'il y a un nouveau corridor migratoire entre l'est de la Libye et la Crète qui a émergé ces derniers mois. Le nombre d'arrivées irrégulières en Crète depuis la Libye a dépassé les 10 000 depuis le début de l'année, soit plus de 4 fois le total de l'année passée. Il y a d'autres routes qui, elles, sont de plus en plus utilisées et la Méditerranée centrale reste la plus fréquentée. Entre janvier et juillet 2025, près de 37 000 entrées irrégulières ont été recensées, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période l'année passée. Ce qui en fait, cet itinéraire-là représente 2 traversées irrégulières sur 5 vers l'Union européenne. Le nombre de traversées a également augmenté de 11 % sur la Méditerranée occidentale pour plus de 8 000 franchissements de frontières ces 7 derniers mois. Mais ce sont les traversées irrégulières vers le Royaume-Uni via la Manche qui explosent littéralement.
Ah oui.
Les traversées réussies et les tentatives de traversées là, combinées ont augmenté de 26 % pour atteindre 41 800. Et avec plus de 25 400 arrivées enregistrées par le ministère de l'Intérieur britannique depuis janvier, l'année 2025 est bien partie pour battre tous les records. Selon The Guardian, le nombre de passages a augmenté de 51 % par rapport à l'année passée et 73 % par rapport à 2023.
C'est fou, il y a à peu près quoi 5-6 ans, il n'y en avait presque pas. Hein?
Non, c'est ça, mais en plus, c'est quand même paradoxal parce que les mesures pour bloquer les passages puis les empêcher augmentent.
Oui, pour empêcher même de prendre la mer. Là,
exact.
C'est ça.
Fait que...
Mais ça, ça a souvent l'effet contraire, ces mesures-là. Hein?
Non, c'est ça. Ça veut dire que ça empêche personne.
Exactement, oui.
Et donc, qui dit augmentation d'y arriver, dit, comme tu en as parlé pour la Belgique, Simon, dit augmentation des demandes d'asile qui ont atteint un record jamais égalé depuis 2001. 111 000 entre juin 2024 et juin 2025.
Toujours pour le Royaume-Uni?
Oui. D'après les dernières données publiées par le Home Office, là, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. C'est pas une si grosse augmentation que ça. Mais, bref, c'est ça. Donc, on se déplace, c'est ça pour le Royaume-Uni, on se déplace vers l'Espagne. D'abord, dans la Méditerranée, aux îles balnéaires, où là aussi, les arrivées de personnes migrantes ont considérablement augmenté depuis le début de l'année. Cette route migratoire au départ de l'Algérie est particulièrement active. Par exemple, à la mi-août, en 4 jours seulement, il y a 600 personnes qui sont arrivées à bord d'une trentaine d'embarcations. Puis évidemment, ça crée des, tu sais, c'est des communautés insulaires où les infrastructures sont peu nombreuses, assez limitées, donc ça crée des défis difficiles à relever pour les autorités. Ce qui fait dire aux délégués du gouvernement espagnol, en fait, sur l'île, qu'il s'agit de, je le cite, « une des arrivées de bateaux les plus intenses que nous ayons jamais eues en si peu de temps ». De janvier à juillet, les îles ont accueilli environ 3 500 personnes arrivées par bateau. C'est une augmentation de 170 % par rapport à la même période l'année passée. Bon, là, quand même, on peut aussi mitiger, là, parce que la plupart des personnes restent pas plus de 48 heures sur les îles avant d'être transférés vers la péninsule. Et les personnes dans les balnéaires arrivent là, la plupart à Majorque, à Formentera, mais aussi à Ibiza. Je termine avec Ceuta, cette enclave espagnole au Maroc. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, il y a plus de 1700 personnes qui sont arrivées à Ceuta depuis le début de l'année, une hausse de 7% par rapport à l'année passée. Rien que pendant les 2 premières semaines d'août, c'est quelques 270 personnes qui ont atteint le territoire espagnol. C'est que le mois d'août est particulièrement propice aux traversées à cause de ce qu'on appelle le taro.
Ah bon? C'est un vent? C'est un courant?
Un brouillard. C'est un brouillard qui est assez dense et persistant, qui est typique du détroit de Gibraltar. C'est le détroit de Gibraltar que les migrants et migrantes traversent. Donc, ce brouillard-là, le taro, assure une mer calme. Et le brouillard aussi est utilisé par les migrants pour se camoufler lors de leur tentative de traverser. Mais ces traversées à la nage-là entraînent quand même de nombreux décès. Depuis le début de l'année, au moins 21 personnes sont décédées entre le Maroc et l'enclave espagnole, dont 4 seulement au mois d'août. Et l'augmentation des arrivées cause évidemment des problèmes d'hébergement. Je parlais des manques là, au niveau des infrastructures sur les îles, en général, dans les communautés insulaires. Selon le journal local El Faro de Ceuta, des tentes ont dû être installées dans le centre d'accueil temporaire pour migrants de l'île. Actuellement, il y a environ 900 personnes qui s'entassent dans cette structure qui est prévu pour seulement 512 personnes. C'est la première fois depuis l'été 2018 qu'un tel dispositif est nécessaire. Donc, quand même, c'est une situation assez rare. Mm. On s'inquiète particulièrement du sort des mineurs non accompagnés. Il y a environ 500 d'entre eux qui sont pris en charge dans un centre qui est lui aussi surchargé. Selon la municipalité, la surpopulation dans ce centre-là pour mineurs est de plus de 400%. Mm. Donc, ça commence pas. On s'enligne vers des bilans assez catastrophiques.
Ben ça, j'allais dire, on va compléter l'année en début 2026 pour les chiffres complets, mais ça nous donne déjà les chiffres de la première moitié, une bonne idée des tendances. Et tu parlais d'augmentation de 50%, de plus de 100% dans certains cas. Donc, c'est vraiment...
Qu'ailleurs, il y a des grosses diminutions, par exemple, frontières extérieures. Tu sais, ça dépend vraiment de...
Mais disons qu'il y a un bouleversement complet quand même des routes, même des nouvelles routes, les Baléares. Moi, je m'entends
non,
parler.
C'est non, c'est ça. Plus, c'est assez récent.
Bien, merci, Marie-Ève. On va aller en musique. On va écouter une artiste montréalaise, Majai Merlin, qui a fait paraître son album A Weird Little Dog il y a quelques mois sur Bon Sound. Le titre de la pièce qu'on va entendre, See I Get It. Difficile à définir comme style ou comme son, c'est assez éclaté. Je rappelle que vous êtes aux Apatrides Anonymes. Au retour des actualités autochtones, on y va donc avec Majai Merlin. C'était Majai Merlin aux Apatrides Anonymes, des nouvelles autochtones de ailleurs dans le monde avant de passer des enjeux autochtones d'ici avec Mathieu. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, par l'entremise de sa branche Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, enquête actuellement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle utilisée pour traquer et harceler les autochtones qui militent pour la protection de leur territoire et de l'environnement en général. On espionnerait pas seulement les leaders des groupes activistes, mais aussi leurs sympathisants en utilisant de plus en plus la reconnaissance faciale, la surveillance des réseaux sociaux et les outils de police prédictive qui servent à établir des scénarios de où et quand, quelles actions pourraient être menées, tout ça évidemment sans le consentement des personnes surveillées et bien sûr sans aucun mécanisme de contrôle quant à la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Il existe déjà tout un arsenal de surveillance et de répression des militants écologistes autochtones un peu partout dans le monde. On l'a vu ici il n'y a pas très longtemps avec les Wet'suwet'en, entre autres. Et la crainte actuelle, c'est que les nouveaux outils technologiques viennent accroître et accélérer cette tendance lourde aux violations des droits de la personne dans les territoires autochtones. Donc, normalement, ce groupe de recherche de l'ONU, je rappelle son nom si vous voulez consulter son site web et où on trouve beaucoup de documentation, Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. Normalement, ce groupe-là se penche surtout sur le niveau d'atteinte des objectifs par les pays signataires de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Mais ce sera très intéressant de lire son prochain rapport sur cette technosurveillance effectuée par, ironiquement, certains des États signataires de cette déclaration, qui sont aussi très souvent, double ironie, triple ironie, des États dont l'économie repose beaucoup sur l'extraction des ressources dans les territoires autochtones. Donc, plein de petits conflits d'intérêts et de paradoxes.
Et de contradictions, oui.
Voilà. Donc, à cette répression étatique des militants autochtones, il faut ajouter les menaces d'agences privées de sécurité ou de groupes paramilitaires qui se traduisent souvent par des disparitions et des morts. Moins au Canada qu'ailleurs, il faut le dire, mais j'en profite quand même pour souligner la sortie toute récente d'un livre signé par la militante Moira Milan, du peuple Mapuche, qui est à cheval sur les actuels territoires du Chili et de l'Argentine. Elle a, au moins toute sa vie adulte, Mme Milan, été exposée à ces menaces d'enlèvement et d'assassinat. Elle est toujours en vie et son dernier essai vient d'être publié en traduction française sous le titre « Terricide ». Elle y explique comment nos modèles de développement sont basés sur l'extermination de la vie sur Terre. Elle invite à une révolution idéologique et politique et raconte comment, depuis l'arrivée de Javier Milei au pouvoir en Argentine, la mise en pratique de cette philosophie d'extinction s'est accélérée. Donc, « Terricide », publié par la maison d'édition française « Des femmes », à emprunter dans vos bibliothèques publiques ou à se procurer dans vos librairies indépendantes de quartier. Mm-hmm. Rapidement, une autre suggestion de lecture avant de passer le micro à Mathieu, un article de presse, cette fois-ci dans Espace autochtone, dans lequel on apprend qu'un conseil de bande situé près de Sorel, donc de notre côté de la frontière, le conseil des Abénaki d'Odanak, dénonce la manière dont a été montée une nouvelle collection d'artefacts autochtones au Shelburne Museum, c'est bien ça, près de Burlington, Vermont, dont la direction s'est associée à des groupes qu'ils accusent d'appropriation culturelle depuis de nombreuses années, donc qui ne seraient pas de véritables Abénaki. Donc ça peut sembler anecdotique ici, mais on en a parlé quelques fois aux apatrides d'enjeux d'identité autochtone. Et ce sont des sujets que je pense que les trois ici, on peut s'entendre pour dire qu'on trouve délicats et complexes. Mais cet article-là illustre vraiment plein de petites subtilités qui sont rendues encore plus compliquées par le fait qu'il y a une frontière États-Unis-Canada en plein milieu du territoire Abénaki. Donc, lecture recommandée de cet article dont le titre est « Appropriation culturelle, Odanak attaque un musée américain ». Mathieu, à toi la parole.
Merci Simon. Ben, tu as déjà commencé à parler du Canada-Québec, donc je vais continuer dans ce territoire, ce vaste territoire.
Oui, sur le dos de la tortue.
Oui, exactement, de la grande tortue. Donc, en premier lieu, un recours collectif proposé devant la Cour fédérale allègue que le gouvernement canadien refuse à tort le statut d'Autochtone en vertu de la loi sur les Indiens à des personnes dont les ancêtres ont « volontairement » renoncé à leur statut en vertu de lois qui datent d'avant le début de la Confédération au 19e siècle. Les plaignants ont déposé une requête à Vancouver en dommages-intérêts pour avoir été privés des avantages du statut en vertu de la loi sur les Indiens. La plainte affirme qu'ils ont tous au moins un ancêtre direct qui a été émancipé en vertu du droit canadien auquel moment ils ont renoncé à leur statut et ont reçu les droits et privilèges de la citoyenneté canadienne. La déclaration fait état des conclusions du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, qui date déjà de 1996, selon lequel une loi de 1857 adoptée par la province du Canada, donc avant la Confédération, connue sous le nom d'Acte pour encourager la civilisation graduelle, était l'un des événements les plus marquants de l'évolution de la politique indienne canadienne. Cette loi permettait aux hommes autochtones de 21 ans ou plus de renoncer à leur statut s'ils étaient, entre autres critères, de bonne moralité.
C'est un peu les fondations de la loi sur les Indiens.
Exact, c'est l'ancêtre, mais qui était moins organisé, disons.
Ouais.
Le rapport conclut que la politique d'émancipation constituait une atteinte à l'identité culturelle indienne et était intrinsèquement discriminatoire sur le plan sexuel à l'égard des femmes qui étaient involontairement déchues de leur statut si leur mari était émancipé. Ça, c'est resté dans la loi sur les Indiens, d'ailleurs.
Ouais.
La poursuite affirme que les antécédents familiaux d'émancipation des plaignants signifient qu'eux, leurs enfants et petits-enfants, ne sont pas admissibles à l'inscription au statut d'Indien, les privant ainsi des avantages tangibles du statut sur les plans économiques, éducatifs et sanitaires. La plainte affirme qu'il est trompeur de dire que l'émancipation de l'époque a été volontaire, car elle a souvent été accordée sous une contrainte considérable, puisqu'elle a épargné à leurs enfants les pensionnats indiens, et les femmes et les enfants étaient automatiquement émancipés si leur mari ou leur père en faisait la demande. Mmh. Ça, c'est une cause à suivre. Au niveau des chiffres plus terre-à-terre, alors que le taux national de domicile est en baisse au pays, il demeure extrêmement élevé chez les Autochtones du Canada. En 2024, la police a fait état de 225 victimes de domicile chez les Autochtones, soit 29 de plus qu'en 2023. Ce groupe de décès représente 28,5% des personnes assassinées au Canada, alors qu'il ne constitue que 5% de la population. On a souvent parlé de ces chiffres-là.
Donc, quasiment 6 fois plus.
Là. C'est 8 fois plus avec le taux d'homicide. Là.
Puis est-ce qu'on a la proportion homme-femme?
Oui, je m'en viens. Ouais. Okay. Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis 2014, année à laquelle Statistique Canada a commencé à compiler des données sur l'ethnie des personnes tuées. Le taux est environ 8 fois plus élevé que celui de la population non autochtone. Quand on parle du taux, c'est 1,35 homicides pour 100 000 non-autochtones et c'est 9,65 à 10,84 pour 100 000 personnes chez les Autochtones. 240 femmes ont été assassinées, dont 61 Autochtones au Canada, soit 30% du total des femmes assassinées.
Oh là là,
c'est encore plus élevé, c'était 28,5 pour les deux, mais hommes et femmes. Au Québec, seulement 5 Autochtones ont été assassinés la dernière, 5, vous allez voir pourquoi je dis ça. À l'autre extrême, au Manitoba, on a recensé 73 meurtres d'Autochtones, c'est 78% des personnes assassinées au Manitoba, alors qu'il représente 18% de la population.
Le Manitoba est vraiment comme le
l'épicentre,
c'est ça, des homicides dans le
Manitoba, Saskatchewan, oui, dans les faits. Je continue un peu dans la même veine. Les disparitions de femmes et de filles autochtones pourraient, dans bien des cas, être liées à leur exploitation sexuelle, selon un rapport de Thomson Reuters. En utilisant l'analyse géospatiale, l'enquête tente de mettre en évidence de possibles liens entre des disparitions de femmes un peu partout au pays et des annonces de services sexuels offerts par des femmes et des mineurs autochtones, qui indiquerait selon les auteurs qu'elles sont victimes de traite. Environ 50% des victimes de la traite de personnes au Canada sont des femmes autochtones, alors qu'elles représentent moins de 5% de la population féminine au Canada. L'enquête a identifié 185 cas de femmes autochtones disparues et assassinées de 2010 à 2024. Quelques 124 de ces femmes manquent toujours à l'appel, les autres étant soit décédées ou soit étant revenues et ayant été retrouvées. C'est dans les zones urbaines de Winnipeg, Edmonton et du triangle Prince Albert, Regina, Saskatoon que l'on trouve les plus fortes concentrations de cas de femmes autochtones disparues. De l'autre côté, 57% des annonces sexuelles ont été publiées en Ontario, 21% en Colombie-Britannique, 18% en Alberta et seulement 4% dans les autres provinces, dont le Québec. Là, on parle des annonces qui concernent des femmes autochtones. C'est en Ontario, en particulier dans la grande région de Toronto et Edmonton, que l'on trouve le nombre le plus élevé à la fois de disparitions et d'annonces sexuelles présentant des femmes autochtones. Selon Josie Népinac, présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, la surreprésentation des femmes autochtones dans la traite sexuelle est un sujet largement dénoncé depuis des années par les organismes qui viennent en aide aux survivantes. Le Canada n'a pas dépensé les fonds promis, notamment pour les refuges et les services d'urgence destinés aux femmes autochtones, et n'a pas mis en place le système national d'alerte aux femmes et aux filles autochtones disparues assassinées. Non. Qui doit être dirigé par les Autochtones quand il va finalement arriver.
C'était dans une liste d'objectifs, je crois.
Il y a un projet pilote au Manitoba actuellement, on en a entendu parler, on a parlé à l'émission même, mais il n'y a pas de programme national actuellement. Okay, okay. Le rapport de Thomson Reuters signale des pistes pour améliorer la situation, dont la mise en place d'une base de données nationale sur les disparitions d'Autochtones, pas juste un système d'alerte. L'ajout des annonces sexuelles à cette base de données aiderait également à identifier et à localiser rapidement les femmes présentées dans ces publicités. Bon, ça peut être plus contesté, là, mais... C'est sûr que
sa corrélation, elle est observée, mais elle n'est pas nécessairement démontrée. Il y a quelque chose quand même là.
C'est une étude en cours, disons, mais qui a déjà des premières conclusions, mais qui est à peaufiner. Donc, voilà. Dernier sujet en terminant, si tu me le permets.
Mathieu, je te le permets.
Le gouvernement national des Tsilkotin a récemment annoncé qu'il avait signé une entente avec une minière qui voulait exploiter une mine d'or et de cuivre sur son territoire ancestral. Dorénavant, plus aucun projet minier ne pourra y voir le jour, y compris les travaux d'exploration, sans le consentement libre, préalable éclairé des Tsilkotin. L'entente a été signée entre la Nation, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la minière Taseko Mines basée à Vancouver. Le gouvernement provincial devra également verser 75 millions de dollars à la minière. Ce paiement permet de résoudre des problèmes de longue date juridiques et de faire avancer les éléments clés de l'accord entre les parties. Cet accord intervient après plusieurs décennies de combats devant les tribunaux. En effet, l'entreprise a commencé à proposer le projet en 1995. Ce projet, baptisé New Prosperity, a été rejeté par la nation. Taseko avait cherché à l'époque à poursuivre ses activités d'exploration, ce qui a conduit la nation Tsilcotin,
cette nation-là,
à bloquer les routes menant au site et à obtenir une injonction contre la minière. C'est à la suite de cette injonction que des discussions ont été entreprises entre les parties. L'accord comprend aussi des contributions financières pour la nation, un processus de planification de l'utilisation des terres avec la province sur la zone soumise à l'obligation de consentement et une voie vers la gestion d'une zone beaucoup plus vaste d'une grande importance ancestrale pour les Autochtones. Le gouvernement national des Tsilcotin représente 6 communautés réparties sur le territoire. Il s'agit de la seule nation au Canada dont le titre autochtone a été déclaré par un tribunal, c'est-à-dire la Cour suprême, ce qui leur permet de dire, de vraiment aller loin sur la protection et la gestion de leur territoire.
Finalement. C'est ça, ils peuvent vraiment appuyer leurs prétentions sur une base juridique plus solide que la plupart des autres nations, j'imagine.
Oui, et imposer à des minières ou à des gouvernements là, des ententes comme ça. L'imposer, en tout cas.
Merci beaucoup, Mathieu. J'ai appris
plaisir.
Une chose.
Oui, merci.
Avant de retourner en musique, une petite brève d'actualité internationale plutôt troublante en provenance de la Grèce qui est vraiment en train de sceller sa collaboration très problématique avec la Libye sur les refoulements illégaux en mer. Infomigrant nous apprenait début août qu'Athènes recevait maintenant les gardes-côtes libyens sur l'île de Crète pour leur donner des formations intensives sur les interceptions en mer. Athènes espère ainsi ne plus déployer elle-même sa propre flotte dans l'espace maritime libyen durant les périodes de traversée clandestine plus achalandées, ce qu'elle fait parfois, ce qui n'est pas forcément légal, mais les autorités libyennes ne protestent généralement pas, étant passablement occupées par leur propre division interne avec un premier gouvernement à Tripoli, reconnu par l'ONU et la plupart des capitales occidentales, et un deuxième à Benghazi, celui-là reconnu par Moscou, Le Caire et quelques autres capitales.
Donc, des grandes démocraties.
Oui, il y a comme une séparation. Là, de
SOS, ouais, c'est ça.
Démocratie officielle et non-démocratie officielle. Donc, sur l'île de Crète, on forme en alternance des contingents d'actuels et futurs gardes-côtes qui sont alternativement sous l'autorité de Tripoli et de Benghazi, sans les mélanger. Donc, jeu d'équilibriste diplomatique et de logistique de la part d'Athènes, mais dont on doit surtout retenir que cette collaboration avec la Libye, elle est vraiment en train de se pérenniser avec les pushbacks illégaux vers la Libye qui se normalisent au point de maintenant faire partie des pratiques quasi officielles.
Oui.
Et à ce que je cherche, aucun mécanisme de suivi, à savoir si les personnes migrantes interceptées en mer et refoulées vers la Libye, les craintes bien réelles de les voir finir dans des centres de détention en conditions indignes ou être mises ou vendues à des groupes criminels qui font de la traite humaine pour être transformées en esclaves. Bref, aucune forme de suivi ou de contrôle ne semble prévue par le gouvernement grec, dont le seul objectif est de faire en sorte que le moins de migrants possible n'atteigne son espace maritime ou ses côtes. Avant de te retrouver encore une fois, Mathieu, avec les actualités Israël-Palestine, on va écouter un peu de musique locale avec le légendaire René Lucier.
Tout à fait.
Et Robbie Koster, qui apporte une touche un peu funky à cet album en duo pour ces deux artistes montréalais. Gros album de 14 pièces au style bien éclaté qui figure en bonne position dans le palmarès local de Choc. Son titre est Fiat Lux. Quelques spectacles à venir dans une poignée de villes québécoises. Allez voir le Bandcamp de René Lucier pour les dates. On écoute donc la pièce Truck de René Lucier et Robbie Koster.
Thank you.
Je décrivais ça comme étant funky. Je pense que j'avais raison. Donc, c'était René Lucier, Robbie Koster, la pièce Truck. Donc, maintenant, on passe le micro à Mathieu. On s'en va dans la bande de Gaza, entre autres.
Entre autres, ben pas directement pour l'instant, mais c'est sûr, on parle du génocide en cours depuis près de 2 ans. Hein. On est en septembre 2025.
Disons qu'on va ailleurs, mais ça reste en filigrane.
Oui, puis on est rendu à près de 64 000 morts dans la bande de Gaza. Le chiffre, on l'entend de moins en moins, évidemment, parce qu'il est tellement absurde que, bon...
Quasiment la moitié d'enfants.
Oui, exactement. On va commencer avec le Royaume-Uni. Donc, 5 représentants d'un groupe britannique organisant des manifestations de soutien à l'organisation interdite Palestine Action ont été arrêtés mardi matin cette semaine par la police antiterroriste à quelques jours d'un nouveau rassemblement prévu samedi. Ces militants, actuellement en garde à vue, sont soupçonnés d'encourager le soutien à une organisation interdite, une infraction qui peut être punie d'une peine allant jusqu'à 14 ans de prison. Le groupe baptisé Defend Our Juries a annoncé que la police avait arrêté 5 de ses principaux porte-parole lors de raids tôt le matin ce mardi, en lien avec les manifs qui ont conduit à l'arrestation et l'inculpation de centaines de personnes ces dernières semaines en Angleterre. Plus de 700 personnes ont été arrêtées, dont 522 lors d'une seule manifestation à Londres début août, et 114 personnes ont été inculpées pour avoir brandi des pancartes d'appui au groupe dit interdit. Il faut savoir que le Parlement britannique a approuvé début juillet l'interdiction et le classement en tant qu'organisation terroriste du mouvement Palestine Action. Le gouvernement a annoncé l'interdiction du groupe quelques jours après que des militants se soient introduits sur une base de l'armée de l'air en Angleterre où ils ont maculé de peinture rouge 2 avions.
Oh là là.
C'est fou, hein? Saisie en urgence, la Haute Cour de Londres a refusé de suspendre l'interdiction du groupe qui repose sur la loi de 2000 sur le terrorisme. Des experts des Nations Unies ont critiqué la décision de Londres, estimant que de simples dommages matériels, sans mise en danger de la vie de personne, ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiés de terrorisme.
C'est du vandalisme, disons.
Mais... Ben, c'est des méfaits, comme on dit ici au Québec, des petits méfaits. Retour sur quelques nouvelles de l'été, parce qu'on n'a pas été en onde pendant plusieurs semaines. Deux organisations de défense des droits de la personne israélienne, B'Tselem et Physicians for Human Rights Israel, ont affirmé au mois de juillet qu'Israël commettait bel et bien un génocide dans la bande de Gaza en se basant sur des enquêtes qu'elles ont menées elles-mêmes. L'examen de la politique israélienne dans la bande de Gaza et de ses conséquences horribles, ainsi que les déclarations de hauts responsables politiques et militaires israéliens sur les objectifs de l'attaque, nous amène à la conclusion sans équivoque qu'Israël mène une action coordonnée visant à détruire intentionnellement la société palestinienne dans la bande de Gaza, a précisé B'Tselem. L'ONG médicale PHRI s'est concentré sur le démantèlement délibéré et systématique du système de santé et conclut que les opérations répondent aux critères de génocide tels que définis dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dont Israël est signataire.
Pourtant, beaucoup d'officiels israéliens et à Washington aussi avec leur plan futur pour Gaza, je pense que c'est assez clair là, quand même.
Ah, ben ça, c'est un élément parmi plusieurs, oui, tout à fait. Là,
mais c'est difficile à nier par la suite. Là,
ah oui, les déplacements forcés, nettoyage ethnique, etc. Ben oui, c'est sûr. Sinon, ben les flottilles de la liberté, ça bouge quand même pas mal. Il y en avait une en juin. En juillet, les 21 membres de l'équipage du Andala, un des navires de la flottille de la Liberté, ont été emprisonnés suite à leur arrestation dans la nuit du 26 au 27 juillet. Tous les volontaires ont fini par être libérés après avoir été détenus par les autorités israéliennes pendant 5 jours. Comme pour l'équipage du Madeleine en juin, l'armée israélienne n'a pas hésité à arrêter illégalement les membres du bateau dans les eaux internationales. Comme pour l'équipage du Madeleine, les 21 membres présents sur le chalutier norvégien ont été emprisonnés, puis poussé à une expulsion volontaire, un document attestant l'entrée illégale sur le territoire israélien.
Cette semaine, c'est tout récent.
Non, c'est en juillet.
Oui. Oui, okay.
Le traitement des otages, donc en juillet, par l'armée israélienne, a largement été condamné à l'international entre séances de torture, de viol et de disparition. La Freedom Flotilla Coalition a ainsi témoigné d'épisodes de violence. Mais cette semaine...
C'est ça, il y a eu un départ ou il y a un départ imminent. Là.
Exact. Les bateaux transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants, là, c'est une vingtaine de bateaux vers Gaza, ont pris la mer lundi à Barcelone. Une vingtaine de bateaux ont quitté avec l'objectif d'ouvrir un corridor humanitaire et d'essayer de mettre fin au génocide en cours. Parmi les militants venus de dizaines de pays figurent Greta Thunberg, les acteurs irlandais Liam Cunningham et espagnol Edouard Fernandez, ainsi que des élus européens et des personnalités publiques dont l'ancienne mairesse de Barcelone, Ada Colau. Les navires de la Global Sumud Flotilla, Sumud signifie résilience en arabe, ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire après 2 tentatives bloquées, donc en juin et en juillet par Israël. Donc voilà, fait que ça, tu en avais entendu parler, ça va arriver mi-septembre, mais là c'est 20 bateaux d'un coup, je sais pas comment ça va se passer, mais des centaines de personnalités entre autres, fait que à suivre.
Greta Strikes Back.
Exactement. Deux, trois suggestions de lecture en terminant. Mediapart, du 29 juillet 2025. Avda Ataline, scène de la vie ordinaire en Cisjordanie. C'est retour sur le meurtre le 28 juillet
d'Afda Altani, habitant d'un village bédouin palestinien de Cisjordanie, soumis au harcèlement quotidien des colons depuis des années, et son meurtrier, identifié sur des... Il a même été arrêté de façon symbolique par l'armée israélienne. Mm-hmm. Son meurtrier, Yenon Levy, figure parmi les colons violents faisant l'objet de sanctions internationales au Canada, en Europe et à différents endroits. Puis on l'a vu tirer sur l'autre, évidemment. Puis il a été libéré après. Sinon, un article de La Converse du 12 août 2025 qui s'intitule « Génocide à Gaza, fait ou opinion médiatique ». Dans ces circonstances caractérisées de génocide, la situation à Gaza relève-t-il des faits ou bien de l'opinion? Comment se font ces choix éditoriaux? Donc, nous avons notamment interrogé des journalistes qui ont couvert les génocides au Rwanda et en Bosnie, un journaliste présent actuellement à Gaza, des experts en droit international ainsi que plusieurs rédactions québécoises et françaises. Donc, c'est une belle enquête de La Converse, assez longue et complète, là. Donc, je répète, du 12 août, génocide à Gaza, fait ou opinion médiatique. Et je termine avec Pivot. Une déplacée Gazaoui raconte sa vie sur les bombardements, ses exils successifs et son mince espoir de survivre et enfin de rentrer chez elle. Donc, Pivot entame une collaboration avec une autrice de Gaza. Nous voulons faire entendre une de ses voix actuellement réduite au silence par la violence militaire et la complicité médiatique. Sarah Emad offrira, depuis le cœur du génocide, des histoires ancrées dans son expérience, racontant la dimension humaine de la survie, le poids émotionnel des déplacements constants, la mort qui dure depuis des centaines de jours, la détermination légendaire de son peuple et son espoir de voir la fin de ce génocide. Le premier article était le 21 août 2025. Fuir son foyer, c'est comme voir son âme quitter son corps, c'était le titre. Donc, Sarah Emad Alzac, et le deuxième est sorti hier là, sur pivot.québec. Donc, c'est vraiment une personne qui est sur place, un peu comme le journaliste franco-gazaoui dont on a parlé souvent, qui est encore sur place, qui écrit beaucoup d'articles sur ce qui se passe. Donc,
qui a ralenti le rythme, malheureusement.
Oui, j'oublie son nom, c'est Nono, je ne l'ai pas noté, mais on en a souvent parlé à l'émission.
Tu nous rappelles le titre de Sur Pivot?
Sur Pivot, c'est Fuir son foyer, c'est comme voir son âme quitter son corps. C'est quand même poétique. Ouais.
Parfait, merci beaucoup Mathieu.
Fait plaisir.
Donc on revient plus localement avec Marie-Ève dans quelques secondes.
Je vous parle maintenant, oui, c'est Marie-Ève et non pas Simon, je saute direct dans mon sujet. Donc, les discours haineux ou racistes sont de plus en plus normalisés dans l'ensemble de la société. Ça, ben, ça se répercute au sein de grandes institutions de l'État, ce qui peut mener du petit racisme ordinaire au racisme systémique. D'ailleurs, selon des données obtenues par le service des nouvelles de la CBC, ces types de discours et de comportements-là connaissent une résurgence au sein des forces armées canadiennes depuis 2024. Ces données-là proviennent du système de suivi des incidents liés à une conduite haineuse.
C'est un système
qui a été mis sur pied par l'armée pour documenter là ces types de comportements-là.
D'accord.
Ces données-là révèlent qu'en 2024, 54 incidents ont été rapportés, soit près du double de 2023. Depuis 2020, c'est-à-dire depuis que le système a été mis sur pied, ce sont 364 incidents qui ont été rapportés. Les hausses touchent tous les types d'incidents considérés par l'armée comme des comportements haineux. Par exemple, le fait de se livrer à de la propagande haineuse. On parle de 26 incidents en 2024 comparativement à 10 en 2023.
C'est, disons qu'il n'y a pas d'ambiguïté, là, c'est très clairement raciste.
Oui.
C'est un peu difficile à se défendre.
Ou encore la profération de menaces ou l'intimidation, là, c'est de 17 incidents en 2024 comparativement à 11 en 2023. Il y a certains spécialistes en extrémisme de droite qui expliquent cette hausse-là par le contexte social et politique chez nos voisins du Sud.
Ah non, ça a pas, ça se peut pas.
Plus précisément, depuis la réélection de Donald Trump, qui justement participe à la légitimation, voire la banalisation de tels discours et comportements. D'autres pensent plutôt qu'il s'agit d'une réaction interne aux efforts des forces armées canadiennes pour enrayer les comportements haineux et les inconduites sexuelles dans leur rang, que certains voient comme des politiques intrusives qui menacent leurs droits et libertés. Moi, je dirais plutôt que c'est par peur de perdre leurs privilèges, leur statut et leur impunité.
Ou que leur masculinité est juste très fragile.
Oui, c'est ça, oui. Par exemple, je vais vous donner des exemples. À la mi-août, là, le dernier exemple en date, l'armée canadienne a suspendu 5 militaires de la base de Valcartier qui avaient pris part à une vidéo contenant des comportements haineux. La vidéo en question n'a pas été rendue publique, mais selon l'armée, cette vidéo-là qui leur avait été transmise par un civil montre au moins 7 personnes. On peut y voir, là, c'est la description qu'en fait l'armée, là.
C'est une personne, on l'a pas vu.
Là, non, mais... en train d'effectuer des manœuvres militaires ou des drills, comme on dit dans le jargon, devant le drapeau du Royal 22e Régiment, puis consommer une substance. Et à un moment dans la vidéo, on voit des personnes qui font le salut nazi. Il y a une enquête de la police militaire qui a permis d'identifier 5 des 7 personnes qui, comme je disais, ont été suspendues de leur fonction militaire, mais avec salaire. Et plus tôt cet été, ben, il y a aussi 2 membres actifs des forces armées qui faisaient partie d'un groupe de 4 personnes arrêtées en lien avec une activité terroriste. Donc ça, c'était pour les racistes, xénophobes, bref, les agresseurs. Parlons maintenant de leurs cibles. Le réseau canadien anti-haine mentionne que les débats houleux sur l'immigration au Canada et aux États-Unis ont accru l'hostilité contre les nouveaux arrivants. Je cite le directeur général du réseau, Evan Balgord. Nous avons remarqué dernièrement une hausse importante des propos haineux en ligne contre les immigrants et les communautés de l'Asie du Sud. Les rumeurs voulant que ces groupes ne soient composés que de criminels dangereux qui ne peuvent vivre en société sont de plus en plus propagées. En Alberta, par exemple, il y a 2 centres pour nouveaux arrivants, celui de Calgary et celui d'Edmonton, qui dénoncent les insultes que subissent leurs employés et ce que les personnes immigrantes qui utilisent leurs services. Il y a Shamaila Akram du Centre des nouveaux arrivants de Calgary. Elle explique que les personnes immigrantes qui fréquentent le centre, plus particulièrement les femmes portant le hijab, souffrent d'anxiété et ont même des crises de panique lorsqu'elles sortent du bureau parce qu'elles se font insulter et tout ça. Il y a Kelly Ernst, qui est le directeur de la programmation du centre. Lui, il dit que cette hostilité-là coïncide justement avec les débats entourant le système d'immigration au Canada. Il reproche d'ailleurs au gouvernement albertain d'entretenir ce sentiment-là anti-immigrant avec le groupe de travail Alberta Next, qui a commencé là, une tournée dans l'ensemble de la province pour consulter la population sur différents sujets, notamment le système de l'immigration. Sur ces questions-là, je vous invite à aller lire le texte de Shedley Belkodja, qui est professeur à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia, intitulé « Réagir au discours du temps présent contre l'immigration est un devoir » et publié dans la section « Idées du devoir ». Le texte aborde en profondeur là, le contexte social et politique dans lequel s'inscrit le discours ambiant sur l'immigration. L'auteur invite à aller au-delà de la logique de la souveraineté et de l'identité nationale pour formuler un rapport à la migration sur la base du principe de l'hospitalité qui, selon lui, je le cite, permet de saisir un espace, un lieu, un territoire où se partage une expérience qui doit être pensée tel un pouvoir émancipateur et rassembleur. Donc, beaucoup plus inspirant que ce qu'on entend actuellement.
Ouais, parce que tu disais que la théorie qui motive ce racisme-là, c'est souvent l'idée selon laquelle immigration égale importation de criminalité.
Entre autres.
Puis il y a ben, toutes les théories de grand remplacement aussi, tout ça qui viennent un peu jouer là-dedans, j'imagine.
Oui, mais
aussi
comme quoi que, bon, il faut une immigration responsable pour protéger nos services publics, par exemple.
Entre autres, oui.
Oui, puis ce que le chef du PQ a dit il y a 3-4 semaines sur les jeunes délinquants à Montréal,
ouais,
que c'était relié à l'immigration, là.
Ouais,
c'est
non,
tout
c'est
le même
ça.
Discours, là.
Oui, sans aucune forme de preuve ou de données probantes, là, en tout cas.
Donc, je vais terminer quand même. Je vais terminer sur une note positive parce que oui, certaines choses évoluent quand même dans le bon sens.
On va le prendre.
Comme le droit et la justice, par exemple. Oui, oui. Il y a quelques semaines, il y a Frank Paris, un homme noir a plaidé coupable devant la Cour du Québec à la suite d'accusations de trafic de cannabis et de haschich destinés à une clientèle inuite du Grand Nord. Pour déterminer sa peine, j'imagine vous vous demandez où je m'en vais avec ça.
Ouais.
Mais vous allez voir, pour déterminer sa peine, la juge Magali Lepage a pris en compte ce qu'on appelle un rapport d'évaluation de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle. Ce type d'analyse-là, en fait, examine les obstacles culturels et systémiques auxquels la personne accusée a été confrontée tout au long de sa vie. Donc, si cette pratique-là est reconnue au Canada depuis plus de 10 ans, apparemment, c'est la première fois qu'elle est utilisée par la justice québécoise. En s'appuyant, entre autres, sur ce rapport-là, le juge a condamné Frank Paris à 2 ans de prison, comme le plaidait la défense, plutôt que aux 3 ans, par exemple, demandés par la couronne. Bref, ça revient, en fait, à une première, tu sais, où une juge a tenu compte du racisme systémique dans l'établissement de la peine d'un accusé noir, une manière de contrer la violence historique du système pénal envers les personnes noires. Je vous invite à aller lire le très bon texte de Tamara Termitius, qui est publié sur Pivot et qui s'intitule « Comme la société, le droit évolue ».
Intéressant, on va aller lire ça.
Et oui, on a beaucoup de suggestions de lecture aujourd'hui.
Oui, j'espère que vous avez pris les notes.
Beaucoup, hein?
On se prépare, hein, que voulez-vous. Donc, c'est bientôt la fin de l'émission, donc au retour des tambours, on vous fait l'agenda. Donc, gardez vos stylos et vos papiers. Quelques activités dans les jours et semaines à venir. Donc, sortez plutôt votre plume Mont-Blanc pour bien noter tout ça. Donc, demain, pour qui nous écoute en direct, évidemment, donc le vendredi 5 septembre, se tiendra une assemblée populaire contre le PLC2, le projet de loi fédéral numéro 2, qui, sous le couvert de sécurité frontalière, amalgame dangereusement immigration, droit d'asile et lutte contre le crime organisé. Alors, on y revient.
Exact.
C'est même au niveau institutionnalisé, au niveau... À Ottawa, donc en renforçant la perception des personnes migrantes comme une menace pour justifier une approche répressive plutôt qu'humanitaire ou communautaire. Ça se passe donc demain de 17h à 20h à la Clinique pour la justice migrante au 3600 Bélanger à Montréal, au coin de la 15e avenue, métro Saint-Michel, avec une bonne petite marche. Le lendemain, ce samedi, donc le samedi 6 septembre, un barbecue festif et familial organisé par le mouvement Action Chômage Montréal, le MAC Montréal, dans le cadre de sa campagne « Pousse, mais poussette égale », bon petit jeu de mots,
c'est bon.
Dont l'objectif est de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il modifie la loi sur l'assurance-emploi, ainsi que afin que toutes les travailleuses aient droit à une protection en cas de chômage, indépendamment de toute absence sur le marché du travail liée à la grossesse, à la maternité ou aux responsabilités familiales.
De là la poussette.
Oui, et ce qui sont souvent des charges qui reviennent à peu près automatiquement aux femmes.
Oui.
Il y aura des hot dogs, j'espère que ce ne sera pas des femmes qui vont les préparer.
Mais non.
Des rafraîchissements et de la conception de bannières en vue de manifestations à venir. Je disais donc que ce barbecue pousse, mais poussette égale a lieu ce samedi 6 septembre à 11h au Parc Jarry à Montréal. Toutes les infos seront sont sur MacMontréal, macmtl.qc.ca. Je termine cet agenda avec 2 pétitions en ligne. La première est justement une initiative de la Ligue des droits et libertés. Elle porte le titre bien explicite suivant « Exigeons le retrait du projet de loi numéro 94 sur la laïcité dans le réseau de l'éducation », dans lequel on prend bien soin de mettre le mot « laïcité » entre guillemets, alors qu'on sait que le réseau public d'éducation fait face à des défis très importants en termes, par exemple, de rétention de personnel, de bâtiments insalubres qui tombent en ruine, de financement inadéquat. Encore une fois, on veut détourner l'attention avec des faux enjeux juste pour plaire à sa base électorale xénophobe. Donc, pour lire la déclaration complète et signer la pétition, je rappelle le site de la Ligue des droits et libertés, liguedesdroits.ca. Deuxième pétition en ligne qu'on vous suggère, c'est une pétition de l'Assemblée nationale parrainée par Vincent Marissal qui s'intitule... oui, on l'entend.
Ça arrive des fois, ouais.
On l'entend, on le voit pas si souvent que ça. Le nom de la pétition, octroi de l'assurance maladie aux ressortissants de Gaza, titulaires d'un visa de résidence permanente et résidents au Québec. Dans la déclaration complète, on nous rappelle entre autres que les évacués de Gaza souffrent de toutes sortes de traumatismes physiques et psychologiques importants après avoir échappé à des conditions de génocide, hein, j'ai osé le dire, que le Québec est la seule province au Canada à refuser d'octroyer l'assurance maladie aux Gazaouis à la fin des 3 mois de couverture par le programme fédéral de soins intérimaires, ou encore que le Québec a déjà octroyé l'assurance maladie complète à des évacués de guerre issus d'autres pays, dont les Ukrainiens. Alors, c'est la pétition numéro 2164 sur asnat.qc.ca et vous avez jusqu'au 13 octobre pour la signer et la partager. On se retrouve dans quelques instants pour, et oui, déjà la fin de cet épisode. C'était l'édition du 4 septembre 2025 des Apatrides Anonymes, une toute petite brève sur l'extrême droite au Japon, qui au mois de juillet dernier a fait une percée historique lors des élections sénatoriales, avec 14 sièges sur 248 pour le parti Sanseito, ce qui peut sembler peu, mais qui est un score jamais vu pour une formation politique aussi extrémiste, qui mélange sans aucun complexe complotisme avec profusion de fausses nouvelles, xénophobie, homophobie, haine des médias traditionnels, des intellectuels, des institutions, tout en étant grassement financé par des milliardaires et appuyé par des influenceurs aussi cool que vendus et insignifiants. Donc, recette.
C'est l'international fachosphère.
Ben, c'est du gros, quasiment du MAGA sans peut-être le nationalisme chrétien, peut-être sans l'évangélisme.
Ouais.
Donc, justement, ben, certaines têtes dirigeantes MAGA états-uniennes ont été appelées au Japon pour conseiller Soei Kamiya, le chef du parti, ainsi que son personnel politique, ses stratèges pour monter leur campagne électorale. Donc, l'article le plus complet que j'ai lu sur le sujet, c'est en anglais sur theconversation.com, Right-wing Populist Sanseito Party Shakes Japan with Election Surge. Avant de vous présenter la dernière pièce musicale, nos coordonnées, vous le savez, à part l'été où on se relâche un peu, on est normalement en ondes toutes les deux semaines, tous les deux jeudis à 18h30 en direct des studios de Choc à l'UQAM. On est aussi diffusé sur les ondes FM de Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Bonjour aux Victoriens et Victoriennes qui nous écoutent là-bas. Sinon, on a encore une page FB où on publie des articles de médias non canadiens et des événements locaux. Tous nos balados sont en rattrapage, évidemment, dans choc.ca ou sur notre site web apatridesanonymes.info, notre adresse courriel apatridesanonymes@resist.ca. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Simon, pour l'animation et tout le beau contenu.
Merci pour vos chroniques et votre mise en onde.
Fait plaisir.
Merci aux auditeurs d'être, et auditrices.
Il ne faut pas les oublier.
D'être à l'écoute.
Ça faisait 6 semaines qu'on n'avait pas été en
oui,
onde.
Oui, j'espère qu'ils se sont ennuyés de nous autant qu'on s'est ennuyés
de faire de la radio.
Ouais, en onde, oui.
Donc, merci aux auditeurs, à notre auditoire nombreux. Donc, et merci à vous pour... on a appris plein de choses aussi dures que passionnantes. Donc, on se retrouve le 18 septembre. On se quitte comme toujours en musique aujourd'hui avec le groupe vancouverois de surf, rock, cumbia, salsa, psychédélique, empanadas illegales, que j'ai malheureusement manqué lors du dernier festival de jazz et je ne vois pas de date de concert à venir. Donc, en attendant, on se rabat sur l'écoute de la pièce. Je ne sais pas si je prononce bien, Guerre BD, de leur dernier album sorti en juin dernier, Sancocho Trifásico. Donc, bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.